Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h08 de retour dans les grandes gueules du sport. C'est votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi. Nous sommes là en direct, évidemment. Si vous voulez réécouter en podcast, la première heure est déjà disponible avec notamment Pierre Ferracci, le président du Paris FC qui monte en Ligue 1 la saison prochaine, qui était notre invité exceptionnel. Toujours avec Christophe Cessieux, Fred Le Canu, Julien Beneteau, Denis Charvet ce matin. Dans quelques instants, J-1 avant le choc en rugby, la demi-finale de Champions Cup entre l'UBB et le Stade Toulousain. La fessée, il y a 10 mois en finale du top 14, compte-t-elle encore? On en parle et c'est notre bras de fer. 10h30, la punchline des GG, signé aujourd'hui Yannick Sinner. C'est longtemps qu'on n'a pas parlé de Yannick Sinner dans cette émission. Petite semaine peut-être. À quelques jours de son retour à Rome, voici ce qu'il dit. J'ai eu envie de tout laisser tomber. Les autres joueurs me regardaient de façon différente. L'Italien va-t-il devenir la tête de turc des joueurs et du public? Et puis 11h, on va ouvrir le dossier Carlos Alcaraz et des doutes autour de sa volonté de devenir le meilleur joueur de l'histoire. Un champion peut-il renoncer à écrire l'histoire, sachant qu'il est dans les temps? On se posera la question, et là encore, vous n'êtes pas d'accord? Mais GG, allez, on débute cette nouvelle heure d'émission avec ce proverbe indien qui dit, écoutez-moi bien, hein, c'est indien, donc c'est forcément sage, celui qui répond est inférieur à celui qui questionne.
RMC, le bras de fer GG.
Le sentiment d'infériorité.
Ça va aller, l'essai ! 8ème essai ! Le 9ème essai toulousain !
Au final, ça entraîne un manque d'assurance totale.
Oh, quel rugby les Toulousains!
Faut viser l'amélioration, se dire que si on a une faiblesse, eh ben on peut s'améliorer tout autant que les autres.
C'est une orgie! C'est une orgie! C'est incroyable, on n'a jamais vu ça!
Ça me gonfle un peu cette opposition qu'on veut créer entre Bordeaux et Toulouse, parce qu'il y a beaucoup de respect entre nos deux clubs.
Aura, on est à 5 mètres face au poteau, ils en font de tout!
Moi par contre, je sais qu'il faut pas manquer d'humilité parce que la machine rouge et noire, elle pourra nous broyer d'autres fois.
C'est terminé! Jamais rassasié!
Les plus petits pas après la chute, c'est les plus grands pas de notre vie.
Le Stade Toulousain décroche un 23e bouclier de Brennus.
23-0, c'est la piquette, Jack.
Bravo à Maxime Abolin et à Alban Azaïs pour cette production. L'Union Bordeaux-Bègles peut-elle le faire? L'UBB peut-il sortir l'ogre toulousain, le tenant du titre? C'est toute la question à la veille de ce choc magnifique en demi-finale de Champions Cup. Les Bordelais, vous le savez, terrassés la saison dernière en finale du top 14 par les Rouges et Noirs, 59-3. Une fessée encore dans les mémoires, même si l'UBB a battu deux fois son rival cette saison. Mais ces rencontres n'avaient évidemment pas la même importance. La fessée en finale du top 14 compte-t-elle encore dans le coin gauche? La team non, représentée par Denis Charvet et Fred Le Canu. Dans le coin gauche, la team oui, et c'est pas forcément grave, mais oui, Christophe Cessieux et Julien Beneteau. Un petit point sur le sondage, on vous a posé cette question sur le compte X des grandes gueules du sport, c'est du 62-38. 62% oui. Elle compte encore. Denis Charvet, Fred Le Canu, vous pensez que non? Vous allez débuter dans quelques instants. Mais avant de débattre, on va retrouver notre correspondant à Bordeaux, Nicolas Paolorsi. Salut Nicolas.
Salut les GG, salut à tous.
Nico. La question centrale quand on s'adresse à toi, évidemment, les Bordelais, est-ce qu'ils sont encore marqués par cette défaite la saison dernière?
Alors vous allez peut-être me dire que c'est de la com, hein, mais je peux vous assurer que pour côtoyer les joueurs au quotidien, cette finale de top 14, elle est très loin derrière l'UBB dans les discours et dans les têtes. Elle a été totalement soldée, tout simplement parce qu'on a rapidement identifié les raisons de l'échec, et les raisons de l'échec étaient assez évidentes. Mathieu Jalibert est revenu cette semaine sur ce match.
On pense pas réellement à la finale du top 14. On l'a dit depuis le début de saison, ce match nous a servi aussi pour préparer cette saison-là. On était arrivé avec beaucoup de fatigue, beaucoup de joueurs qui étaient sur les rotules, et on était tombé tout simplement sur meilleur que nous ce soir-là. On parlait de la claque l'année dernière en finale, mais c'est des matchs qui ont une grande importance dans notre apprentissage.
Et c'est vrai que depuis, l'UBB s'est largement renforcé, hein. Les postes sont doublés, voire triplés. Il y a un vrai turnover depuis le début de saison. Avec les résultats qui suivent, la nouvelle direction prise depuis cette finale semble la bonne. Malgré tout, la stat reste présente. L'UBB a joué 3 fois Toulouse en phase finale ces 4 dernières années. 3 défaites bordelaises. Le manager Yannick Bru.
Si les 13, je vous demande de jouer votre maison sur le vainqueur potentiel. Je vous laisse face à votre objectivité. Évidemment que le grand public se dit, on va retrouver encore Toulouse Leinster en finale. On est la meilleure équipe de Champions Cup. Ok, sur la phase de poule. Ce genre de stat, ça sert à rien. On va jouer les matchs. Par contre, nous, on aura l'envie de bien faire. Je pense qu'on sera porté par une énergie, une ambition de conquête.
Il ne faut pas oublier, tu le disais JC, malgré tout, que Bordeaux a battu deux fois Toulouse cette saison en top 14. Mathieu Jalibert.
On les a battus deux fois. Après, on n'a jamais joué leur équipe type, celle qui démarre les matchs de phase finale non plus. Donc, faut rester mesuré. On sait qu'on a des qualités qui nous permettent de trouver des solutions et de les mettre en difficulté. Mais on sait aussi que voilà, il faut garder de la constance sur 80 minutes.
Les Bordelais ont ciblé les secteurs clés, notamment pour leur paquet d'avant, défendre les maules, gagner la ligne d'avantage, être régulier en conquête, parce que si derrière l'UBB est probablement la meilleure équipe de la saison avec Toulouse, devant, il y a toujours un doute qui existe sur la capacité de ce pack à gagner les très grands matchs.
Merci beaucoup Nicolas Paolorsi d'avoir été avec nous.
Juste pour vous dire qu'elle compte encore cette défaite, parce que régulièrement, Nico se fait brocarder par tous les copains d'entre les poteaux, notre podcast rugby, notamment par Wilfried Templier qui depuis
c'est
un
du
an
harcèlement.
Lui rappelle quotidiennement de manière hebdomadaire quand même cette défaite et cette fessée monumentale.
Bon premier argument pour dire qu'elle compte encore cette fessée en finale du top 14. Nicolas Paolorsi, tu restes avec nous évidemment si tu veux rajouter quelque chose dans ce débat UBB Stade Toulousain, la fessée en finale du top 14, compte-t-elle encore? J'ai du oui, j'ai du non, mais pour l'instant les copains du non, Fred Le Canut, Denis Charvet, vous êtes derrière. Pourquoi non Denis?
Pourquoi non? Parce que d'abord j'ai envie de revenir sur ce match, cette finale. D'abord pour moi c'est un accident. Donc c'est pour ça que si je parle d'accident, c'est que c'est un match, pas un match comme les autres. C'est un match où ils avaient laissé beaucoup d'énergie, il y avait pas mal de blessés, notamment ils avaient fait jouer Mathieu Jalibert sur une jambe qui a pas été bon, mais parce qu'il était pas, physiquement apte. C'est arrivé au mauvais moment. Ils ont laissé beaucoup de jeux en demi-finale contre le Stade Français. Et surtout, ils avaient fait le barrage. Et on sait que depuis 6 ans, le club qui est champion de France ne fait pas les barrages. C'est significatif. Ça veut dire que pour avoir une chance de lutter en finale, il faut accéder directement en demi-finale. C'est bon, pour moi, c'est carrément rédhibitoire.
Okay.
Donc je veux dire, c'est un accident. Donc cet accident, ils l'ont oublié. C'est fait partie de leur vie, de leur vie de joueur.
Mais pour moi, c'est oublié, Denis,
si ils l'ont oublié.
Au contraire, ils s'en servent.
Non, ils s'en servent pas. Parce qu'il n'y a pas
sûr.
De référence.
Tu crois qu'il y a un match qui leur a pas rappelé, leur a dit les gars, vous voulez encore connaître ça?
Non,
vous
n'avez pas. C'est trop gros pour être vrai dans le sens où c'était un match de gigot haricot, comme on dit dans le langage du rugby. C'est-à-dire un match de fête.
Ils ont une fesse rouge.
Oui, mais
et je pense toi. T'as connu, non, évidemment, tu jouais à Toulouse. Mais donc t'as pas eu souvent les fesses rouges. Mais ça marque oui, les joueurs de rugby.
Si tu me parles d'humiliation, évidemment que c'est une humiliation.
Yannick Bru, il a été élevé.
Oui,
pour
mais bien sûr. La mamelle du Stade Toulousain.
Exactement.
Mais je veux dire, bien sûr que c'est une humiliation. Mais si tu as de la réflexion, si tu réfléchis, si tu analyses, tu dis, bon, mais c'est un accident, ça reviendra pas. Si tu veux, ça ne peut pas revenir. C'est comme ça. T'as eu un accident dans ta vie, mais voilà, il est arrivé. Et que là, après, comme le dit Nico, il y a eu deux matchs derrière. Alors même s'il n'y a pas les équipes types, ils ont gagné deux fois. Et psychologiquement, ça veut dire qu'ils sont capables de les gagner. Alors évidemment, il y a une donnée qui est à prendre en compte. Ils n'ont jamais gagné en phase finale. Et oui, c'est vrai qu'en match final, c'est différent. Toulouse, ils ont l'expérience, ils ont la capacité à bien gérer ses moments forts, à gérer les moments faibles. Et c'est vrai que l'expérience, mais c'est essentiel. Mais après, moi, je pense que l'UBB aujourd'hui a tout évacué, qu'ils ont un meilleur effectif cette année, une meilleure équipe,
oui.
Ils sont en capacité de rivaliser. Je dis pas qu'ils vont gagner, je dis qu'ils sont en capacité de rivaliser. Et pour moi, pour répondre à la question, l'accident dont je parle, il est très très loin.
Il est très loin, il compte pas encore en soutien. Fred Le Canu veut apporter des précisions.
Oui, je suis complètement d'accord avec Denis. L'événement, il est lointain maintenant. Il y a eu 2 victoires depuis, donc forcément, on a resitué le niveau, on a reconstruit des choses. Donc, on va peut-être s'appuyer là-dessus, mais c'est tellement lointain. Non, ce qui compte là, c'est la dernière défaite qu'il y a eu avec La Rochelle. Ça, par contre, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Cette défaite-là, elle est bien plus importante que l'autre avec le Stade Toulousain, parce que ça montre justement que l'esprit, l'état d'esprit, il est déjà face au Stade Toulousain. Et je te prends l'argument tout simple, puisque vous suivez la Ligue 1 avec passion, de cette défaite du Paris Saint-Germain face à Nice.
Et on est
exactement dans la même configuration. Le Paris Saint-Germain perd son défi face à Nice parce qu'ils sont déjà à la tête à Arsenal. Et je vous rappelle quand même qu'ils ont gagné 1-0.
Les Béglis avaient la tête
Et là, pour moi, la défaite la plus importante, c'est celle face à La Rochelle, parce qu'elle montre qu'ils n'y étaient pas, parce qu'ils sont déjà sur la suite, avec justement ces deux matchs dans la poche. Pour leur prouver qu'ils peuvent gagner. Donc, s'il y a bien une statistique qui va tomber là, l'UBB, comme moi, je rejoins Denis complètement, on n'est pas sûr qu'ils vont gagner. Par contre, tout est articulé pour qu'ils puissent le faire.
Et puis, je finirai juste, c'est que, pour suivre ton argument, c'est qu'ils vont jouer la meilleure équipe au monde, peut-être. C'est-à-dire une semaine d'intervalle. Donc, c'est vrai que contre La Rochelle, ils n'étaient pas là. Et là, ils vont avoir un levier, un ressort terrible de se dire, de motivation, de
Toulouse,
ils vont basculer dans une autre dimension.
Julien, pas d'accord.
Non, moi j'ai mis que oui, ça comptait forcément un petit peu, mais pas de manière, parce que il y a c'est un autre contexte. Ils vont jouer chez eux, même si c'est au Matmut Atlantique, c'est quand même chez eux. C'est une autre compétition, c'est pas le championnat de France, c'est la Coupe d'Europe. C'est pas le même arbitrage, ça va pas être.
Oui, tu as raison.
Donc, je pense que ce contexte va les aider à passer à autre chose. Je pense que l'argument que l'année dernière ils sont arrivés, ils étaient oxy, d'accord. Mais sauf que le Stade Toulousain, ils ont joué autant de matchs qu'eux parce que eux, ils ont joué les barrages.
Ils ont fait tourner beaucoup plus l'année dernière.
Le Stade Toulousain, pendant que les mecs jouaient le barrage, eux, ils avaient joué la demi-finale de Coupe d'Europe et ils se préparaient pour jouer une finale de Coupe d'Europe. Donc, en termes de nombre de matchs, physiquement, c'était pareil. Sauf qu'ils ont plus d'expérience et ils avaient peut-être un meilleur effectif pour faire tourner. Ça, je suis d'accord, mais voilà. L'argument de Fred tient avec La Rochelle. Oui, je pense que Denis a raison aussi. Ils savent que samedi dernier, le match le plus important, c'est demain 16h.
Mais attends, tout le monde a raison. Tu te situes où? Est-ce que tu restes sur tes positions?
Il n'était pas d'accord avec nous. Et depuis Denis, il est d'accord avec nous.
On a gagné.
On va faire le sondage. On est à 68-38.
On garde le meilleur pour la fin. C'est quand même là.
Parce que je pense que malgré tout ce qu'ils disent, les Bordelais, si au bout de 15-20 minutes, il y a 7-0, 10-0 pour le Stade Toulousain, là, ça va recommencer à leur trotter dans la tête en disant « Putain, mais on n'y arrive pas contre eux. Qu'est-ce qui se passe ?»
Ça peut revenir, quoi.
Et
non, mais tu as raison. Cet effet-là peut revenir.
Je pense que Hugo Mola
fait le boomerang, comme on dit.
Va les préparer parce qu'ils ont Paramos, Pamovaca, qui sont peut-être les deux meilleurs du monde à leur poste. Je pense que Movaca, il est titulaire dans n'importe quel
équipe. Oui, mais sauf que Julien Marchand est titulaire en ce moment.
Et Ramos, je pense qu'à l'arrière, et en tant que buteur. Et là, Mola va leur dire, les gars, même sans eux, on est capable. On fait tourner toute l'année parce qu'on est capable de les remplacer, on est capable d'être performant avec ça. Et quelque part, ça va peut-être même leur enlever un tout petit peu de pression. Parce que les Bordelais, là, c'est eux qui doivent se dire, mais si on les bat pas là, en demi, chez nous, avec notre équipe type, avec tout le monde à 100% physiquement, et il y a 2-3 absents dans leur équipe type,
on les battra jamais.
On les battra jamais.
On les battra jamais, sauf que ils n'arrêtent pas de le répéter en conférence de presse, il y en aura encore une autre. Je parle sous contrôle de Nicolò Paolorsi aujourd'hui. Ouais. Les Bordelais le disent. Attendez, le Stade Toulousain est archi favori.
Bien sûr. Ah, ouais.
En revanche, si tu perds demain et si tu perds de manière assez lourde, là, tu vas commencer à vraiment douter parce que tu te diras que tu n'y arrives pas dans les matchs importants. Moi, je pense que cette défaite compte encore parce que de manière positive, c'est-à-dire que Yannick Bruce s'est appuyé là-dessus pour justement ne pas commettre les erreurs qu'il a faites l'année dernière, à savoir un manque de turnover, à savoir une équipe qui avait une équipe type exceptionnelle mais qui manquait de fond et notamment de banc. Il a réussi justement en s'appuyant sur cette défaite, eh bien à changer complètement l'âme de cette équipe. Aujourd'hui, les mecs, les Bielbarré, les Penaud, les Jalibert arrivent plein badin pour ce match qui n'était pas le cas lors de la finale. Ouais. Et ils arrivent en plus, et je sais pas si c'est appuyé là-dessus, mais avec l'envie de revanche. Tu crois pas que Mathieu Jalibert, qui a quand même été humilié par le staff du 15 de France durant tout l'hiver, on lui a dit, mon gars, t'as même pas ta place, deuxième, il y a un, deux, trois ouvreurs toulousains devant toi, tu crois qu'il a pas envie aujourd'hui de se faire Romain Tamac sur le terrain tout à l'heure, lui montrer que le taulier c'est lui, Jalibert, et pas Romain Tamac?
Il est pas humilié par le staff du 15 de France, c'est pas l'humiliation, c'est un choix sportif.
Il est comme nous, alors.
En fait, Denis, on avait raison depuis le départ.
Oui, mais
en fait, vous avez nos arguments, vous avez nos arguments, mais avec une réponse contraire.
Il s'est appuyé sur cette défaite, donc elle compte encore.
Bien sûr,
parce qu'il s'en est servi. Yannick Bruce s'en est servi pour justement arriver à exalter.
Tu vois, Denis, toi, t'as dit oui, t'as dit non, eux, ils disent oui, mais non.
Mais je dis pas du tout la même chose que vous.
Si, t'as dit oui, mais non.
Oui, oui, c'est ça.
Surtout, Christophe, il y a quand même un autre exemple avec le Stade Toulousain, c'est La Rochelle, que l'on a. On a souvent dit que les Rochelais faisaient un complexe d'infériorité face au Stade Toulousain. Dans les matchs qui comptaient, c'est extrêmement compliqué. Est-ce que l'UBB est à l'abri de ça?
Non.
Est à l'abri de ce complexe-là?
Non, pas longtemps. La grande interrogation, c'est celle-là, en fait. Celle que tu évoques là. C'est-à-dire que le complexe, il peut y être encore.
Bien sûr.
C'est-à-dire que est-ce qu'ils vont être assez forts dans une dimension qui va être extraordinaire, parce que là, je pense qu'au niveau de l'intensité, ça va être extraordinaire de demain. Est-ce qu'ils vont être capables d'élever leur niveau psychologique pour faire abstraction de ce syndrome-là qui les perturbe forcément. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme dit justement Julien, quand tu es sur un terrain de rugby et que tu commences à prendre le score, enfin que tu es à la ramasse, tu te dis tu prends un essai, mais ça peut aller très vite.
Le Stade Toulousain.
Non, mais je pense que
Toulousain gagne des matchs aujourd'hui, le quart de finale contre Toulon, il le gagne. Il loupe des points au pied, etc. Il soit là.
Mais non, mais
il
gagne devant.
Non, mais ils sont à égalité. Mais à la fin, tu sens qu'ils vont gagner parce qu'ils ont
ce. Oui, tu sens que la pression, elle est sur les autres.
Top 14 contre La Rochelle ou Entamac Marquessé à la dernière minute, etc. Ils doivent jamais la gagner, cette finale. Mais c'est parce que c'est le Stade Toulousain, parce qu'ils ont une confiance en eux et parce qu'ils ont un truc sur les autres. Et ils l'ont encore aujourd'hui sur l'UBB.
Sur l'UBB, bien sûr. Mais le complexe peut être là.
Sur tous les clubs français.
Et sur tous les clubs français.
Nicolas Paulhorst, si vous voulez ajouter.
Non, mais en fait, je pense qu'il n'y a pas de réponse binaire à votre question. Le traumatisme de la finale, il est évacué. Parce que ça a été un trauma. T'en prends 60 en finale, même si t'es pas à 100%, quand tu te lèves le lendemain et sur les deux mois
que tu es évacué, tu vois.
Ça a été compliqué. Mais le traumatisme de la finale, il est vraiment évacué. Maintenant, des questions, il en reste plein. Est-ce que l'UBB est capable d'élever son niveau? C'en est une. Est-ce que cette équipe-là, sur le papier, elle est capable de gagner un titre? Bien sûr, c'est la meilleure attaque de la compétition. Bielbiaré et Penaud à eux deux sur la compète, c'est 18 et c'est marqué. T'as une ligne de trois quarts qui est probablement aussi forte que celle de Toulouse, voire meilleure dans certains secteurs. Maintenant, des questions, en effet, sur le plan psychologique, il y en a plein qui se posent, mais l'UBB n'a jamais été confronté à ça. Donc demain, c'est vraiment le match révélateur. Là où je vous rejoins, c'est que si demain, tu perds le match, voire t'en prends une.
Là,
derrière, psychologiquement, on va être très fort.
Mais non, mais pour rebondir en top 14,
sans Dupont, sans Ramos, sans Movaca.
Et sûrement les reprenants en finale de top 14, il y a de grandes chances. Mais moi, le seul inquiétude que j'ai pour Bordeaux, pardon, j'ai dit Toulon, mais c'est Bordeaux, c'est les trous d'air qu'ils ont. Nico peut l'attester, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ben tu sais pas, ils sortent de leur match et contre Toulouse.
On parle souvent des trois quarts bordelais qui sont les meilleurs de la planète, mais un peu moins des avants bordelais qui vont avoir affaire quand même à quasiment 8 de l'équipe de France. Donc
7 sur 8. Il y a Hervé qui nous appelle au 32-16, oui.
Non, mais juste pour aller dans le sens de ce que dit Denis, si demain ils perdent Bordeaux, c'est pas à cause du match dont on parle. C'est pas à cause de la défaite. Il y a plein d'éléments. Enfin, c'est ce que vous avez expliqué. Il y a plein d'éléments qui font que ils peuvent perdre et que sur le papier, ça va être très compliqué aujourd'hui. Mais c'est pas l'élément d'avoir perdu il y a quelques mois avec une immense fessée qui fait qu'ils perdront demain. C'est un élément minime par rapport à tous les éléments qu'il y a à prendre en considération.
Hervé au 32-16. Bonjour Hervé.
Bonjour messieurs.
Merci d'être avec nous, supporters de l'UBB. Est-ce que cette fessée il y a 10 mois compte encore?
Alors, je rejoins pas mal de choses que vous avez dit. Un, elle a été évacuée. Deux, je pense qu'aujourd'hui l'UBB est face à son destin, c'est-à-dire que on est là pour jouer ces genres de matchs. On attend 15 000 Toulousains, il va y avoir autant de Bordelais, on va avoir un panel de joueurs sur le terrain exceptionnel. Ah ouais. Et que si l'UBB certes est dans une période où elle a des résultats, on est face à une équipe de Toulouse stratosphérique. Alors certes, il manque 2-3 joueurs, mais si on veut gagner des titres, il faut gagner ces matchs. Et ces matchs, c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est que c'est devant qu'il va falloir gagner et c'est devant que ça va se jouer. Donc après, on revient à des choses simples, c'est-à-dire que on sait qu'en face, il va y avoir l'équipe de France plus Willis, donc c'est pratiquement l'équipe de France, on va dire ça. C'est là qu'il va falloir gagner. Derrière, on sait qu'on est capable de rivaliser avec le Stade Toulousain. Pour moi, c'est une date qui va compter dans le mandat de Yannick Bru et dans l'histoire du club, parce que soit on franchit ce cap-là et puis vraiment on s'installe, soit en fonction du match qu'on va faire, malheureusement, on restera derrière le Stade Toulousain. On n'a pas de chance, ils sont dans une période et dans une génération qui est exceptionnelle, mais on est là pour jouer ce genre de match-là. Et il nous tarde dimanche, parce que je pense que ça va être une vraie fête de sport. On est content de recevoir les Toulousains, même si ça ne sera pas à Chaban. Et que ce que j'espère, c'est qu'on défende nos couleurs et on défende avec toutes nos armes, parce qu'on a toutes nos armes, ce qui n'était pas le cas, absolument pas, lors de la finale la semaine dernière.
Non, mais là où tu as raison, c'est que on reparle du combat et c'est devant. Voilà. Est-ce qu'ils vont gagner cette épreuve de force que va imposer Toulouse comme ils l'ont imposé à Toulon sur la pelouse de Mayol? Voilà, c'est s'ils relèvent ce défi-là, ils auront une chance de gagner. Sinon,
Denis, qu'il y a une petite stat. Alors c'est très bizarre, mais l'UBB est le meilleur pack en Champions Cup. L'alignement en touche, les ballons de turnover, les ballons récupérés au sol, dans le jeu au sol, l'UBB est le meilleur pack. Alors qu'en top 14, par exemple, c'est le pire alignement en touche, ils ont la meilleure touche de Champions Cup. Parce que l'arbitrage est différent, parce qu'il y a plus de vitesse.
Tatafu, il joue pas, on est d'accord.
Tatafu joue pas, non, il est pas sur la feuille de match.
Puis vous avez l'habitude, ça n'est pas qu'au rugby. Hein.
Oui,
pas que les packs sur le terrain, hein,
oui,
évidemment. Merci beaucoup,
Nico.
Paulhorst, d'avoir été avec nous.
Oui, cette image, c'est
Hervé, merci d'avoir composé le 32-16. Un peu d'humour ne fait jamais de mal dans cette émission. Surtout, mais si vous n'aimez pas l'humour, vous le dites, les copains. Et aucun problème.
Si, on aime quand c'est drôle.
L'humour du footballeur.
C'est possible. 62-38. On était parti comme ça avec cette consultation. Nous sommes désormais à 60-40, vous avez gagné un petit pourcentage, les copains.
Ouais, mais tu sais.
Pour vous, c'était non.
Moi, je pense que les petits ruisseaux tout perdre aujourd'hui, toi.
Les petits ruisseaux pour les grands délires.
Essaye de gagner un pari déjà dans ta vie et ensuite tu reviendras.
D'accord. Demain,
je te lâcherai jamais, Denis. Jamais je te lâcherai.
UBB Stade Toulousain, c'est demain à 16h. C'est à suivre en direct en intégralité sur RMC avec justement à Bordeaux Nicolas Paul-Orsi, Wilfried Templier, Yann Delegue, Christophe Cessieux également pour vous commenter cette rencontre. 16h demain, UBB Stade Toulousain. Notez bien ce petit rendez-vous. On se retrouve dans quelques instants autour de Yannick Sinner. Va-t-il devenir la tête de turc du tennis? Oui ou non? A tout de suite, ça.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h33, de retour dans les grandes gueules du sport, votre émission jusqu'à midi. Sachez qu'on parlera de Carlos Alcaraz, qui n'est pas sûr de vouloir devenir le meilleur joueur de l'histoire. Ça, ce sera à 11h. J'adore ce débat. Est-ce qu'on peut renoncer à écrire l'histoire quand on est un champion? On se posera la question. On parlera également de Léon Marchand, qui s'ennuie un peu. Donc, il a tenté, il se lance de nouveaux défis. Il veut faire de la nage libre. D'ailleurs, il a commencé depuis deux jours. Bref, on vous donnera toutes les dernières informations. Restez bien avec nous sur RMC. Mais tout de suite, nous allons parler d'Yannick Sinner. Dans 4 jours, donc, Yannick Sinner va faire son grand retour à la compétition. Chez lui, à Rome, après 3 mois de suspension pour dopage, le numéro 1 mondial s'est confié à la télévision italienne cette semaine. L'occasion pour lui de revenir, hein, évidemment, sur cette période douloureuse et sur le regard des autres joueurs. Ce regard qui a changé. C'est la punchline des GG. Yannick Sinner.
RMC, la punchline GG.
Era un momento non...
Ce n'était pas un moment très heureux. À mon arrivée en Australie, je ne me sentais pas vraiment à l'aise dans le vestiaire. Certains joueurs me regardaient différemment et je n'aimais pas vraiment cela. C'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il était difficile de vivre le tennis comme ça. J'ai toujours été du genre à plaisanter, à aller dans les vestiaires, à parler à d'autres gars. Là, j'étais vraiment différent. Je ne me sentais pas à l'aise. C'est ce qui s'est passé, je ne voulais pas que ça se passe comme ça. D'un autre côté, peut-être qu'à ce moment-là, c'était bon pour moi de prendre du recul. Mais 3 mois, c'est 3 mois. C'est trop.
Et il a parlé, Yannick Sinner, de la réaction des autres joueurs qui le regardaient différemment. On va guetter ces prochaines semaines la réaction du public également. Pas à Rome, où il va être accueilli comme une superstar, mais certainement dans quelques semaines à Roland-Garros. Yannick Sinner va-t-il devenir la tête de turc du tennis? Oui ou non, Christophe Cessieux?
Je pense que oui, en tout cas momentanément.
Ok, tu penses que oui. Fred Le Canu?
Non, s'il fait ce qu'il faut pour pas l'être.
Ok, c'est plutôt non. Julien Beneteau?
Ouais, je pense pas, non.
Non, c'est non. Denis Charvet?
Non.
C'est non aussi. On commence avec toi, Christophe. Pourquoi oui?
Bah, parce que moi, cette attitude, je pense que moi, personnellement, elle m'a agacé. Ce côté Calimero, oh là là, les autres se sont moqués de moi. 3 mois, c'est trop. Je pense qu'il a pas la bonne attitude, l'attitude qu'on attend d'un killer, d'un numéro un mondial du tennis. Il aurait dû dire. Et alors, je dis pas qu'il s'est dopé. Hein,
on en a longuement parlé la semaine dernière avec l'Agence mondiale antidopage. Je vais voir ça en podcast.
Il a été contaminé par son kiné, mais ok, le produit s'est retrouvé dans son corps, donc il aurait dû faire mea culpa, mea maxima culpa. Ok, je ne suis pas dopé, je ne me suis jamais dopé, mais ça s'est retrouvé dans mon corps, donc j'accepte la sanction. Elle aurait pu être plus lourde, 3 mois, c'est pas beaucoup. Je vais revenir avec la volonté de tout écraser, de montrer que je suis le meilleur, et vous allez voir ce que vous allez voir. Je pense qu'avec une attitude comme ça, il se serait mis tout le monde du bon côté. Mais là, ce côté, oh là là, franchement, j'ai vraiment, ils sont trop méchants avec moi, ils ont été trop méchants. Je pense que ça va pas du tout plaire au public de Roland-Garros, qui en plus a toujours aimé aller titiller les étrangers, notamment les Italiens, qui sont nos meilleurs ennemis, faut pas se mentir. Et je suis sûr que si Sinner doit affronter des joueurs français en première semaine, il va se prendre une méga bronca. Voilà.
Mais je pense que ce sera le cas.
Je pense que ce sera. Oui, mais un peu plus accentué par cette attitude. S'il avait eu une attitude différente, je pense que ce serait passé beaucoup.
Ok, l'attitude donc pour toi est en cause. Fred Le Canu.
Oui, bah, je vais vous prendre une petite citation accessible. Le grand philosophe contemporain Arnold Schwarzenegger a dit « De toute façon, il y a deux solutions, soit tu as des excuses, soit tu as des résultats. » Donc là, il est là, c'est-à-dire là, il a toutes les excuses du monde, hein. On le regarde mal, ça se passe pas bien. Donc maintenant, c'est qu'est-ce qu'il va faire de cette énergie-là? En fait, la vraie dimension maintenant, c'est comment il utilise cette énergie négative pour devenir le plus grand. Parce que là où je rejoins complètement ce que je viens d'entendre, Christophe, il a raison, c'est qu'à un moment donné, c'est à lui de changer le tournant. Donc s'il cherche de l'amour chez les gens, chez les joueurs, chez... c'est mort, c'est fini. La première chose qu'il va falloir qu'il fasse, c'est qu'il s'aime lui. Et le sport individuel avant tout, c'est un univers individuel où tu dois, toi, te penser au-dessus des autres, tu dois, toi, aller être unique, tu dois, toi, te remettre en question,
oui, et utiliser l'énergie négative. En Australie, il y avait des...
Et aujourd'hui, il est dans une victimisation qui fait qu'il perd de l'énergie. Et les grands champions, c'est ça. Oui, mais... je te prends, tiens, Denis, je vais te faire une passe en retrait, tiens.
Oui, vas-y.
Philippe Saint-André, que tu connais, il a commencé par le tennis.
Oui.
Il a été à Roland-Garros, il a joué à Roland-Garros en mini, mais il a fait du tennis. Et il l'a dit lui-même, c'était pas un mec de sport individuel, il était plus à l'aise dans le collectif, capitaine des autres. Oui. Donc aujourd'hui, c'est exactement la même chose avec Sinner. Est-ce qu'il est sur l'extérieur ou est-ce qu'il est sur l'intérieur? Il faut être dans une introspection totale quand tu es champion individuel.
Il est pas minime, Sinner, il est grand maintenant. C'est pas comme Saint-André, Philippe, qui part à l'âge de je sais pas, de
quel
âge?
14 ans.
14 ans, là, tu compares un truc qui est pas comparable. Non, moi, Sinner, il m'a étonné, c'est qu'il avait cette épée de Damoclès, il savait très bien où il allait. Qu'il allait être suspendu, il a fait l'Australie, il a gagné. Je veux dire, pour moi, c'est quand même très significatif. C'est-à-dire que dans la...
Ça veut dire que le regard des autres, ce qu'il confie aujourd'hui, n'a pas d'impact sur lui.
C'est un grand champion, tout simplement. Après, j'ai pas aimé sa sortie parce que sa sortie, c'est grotesque pour moi. Cette victimisation, pour moi, je déteste ça. Il a qu'à faire amende honorable, il se tait, et puis il joue et il gagne. Voilà, c'est tout. On attend qu'il gagne.
Mais entre-temps, il y a eu cette déclaration qui est maladroite.
Là, il arrive à Rome, le héros, le gladiateur au Foro Italico, voilà. Il va avoir une première conférence de presse un jour ou deux avant son premier tour. Ils vont peut-être revenir et après, ce sera terminé. Il n'en parlera plus.
Exactement.
Il n'en parlera plus. Toutes ces équipes de com autour de lui vont faire passer le message et l'ATP, les premiers.
Silence radio.
Roland, silence radio, et il va être dans sa bulle, dans son truc.
C'est les joueuses et les joueurs qui sortent en ce moment.
Et les autres.
Parce que les joueuses, t'as vu, il y a quand même des gens qui ont parlé, qui ont dit que c'était inadmissible et tout, et c'est eux qui vont relancer peut-être le débat. Tu pourras pas contrôler toujours la parole, surtout pas des joueuses et des joueurs.
Je pense pas qu'ils soient la tête de Turc, parce que justement, on est dans un milieu.
Oui, très individualiste.
Oui, et puis, sur les grands sujets, quand faut faire preuve un peu de courage et de solidarité, où il y a pas grand chose qui se passe.
On n'est pas
syndicalisé, on n'a pas un vrai truc de joueur. Voilà, Sinner, c'est Sinner, ça va se dire dans les VCR, il va y avoir toujours qui vont dire, ah, si ça avait été moi, j'aurais pas...
Il y a juste Serena qui est montée au créneau.
J'aurais pas pu trop moi.
Et encore.
Et encore, elle a dit une énorme connerie, elle monte au créneau en disant, en étant à la retraite, et en disant qu'elle, on lui aurait certainement enlevé des grands chelems. Mais c'est pas vrai. Oui, et c'est pas vrai. Et
c'est gratuit ce qu'elle a dit.
C'est complètement gratuit. C'est pas vrai. Et en plus, Serena, sur d'autres sujets, on l'a pas, elle a jamais défendu la WTA, les joueuses, pour l'augmentation du prize money, pour plein de trucs, pour l'égalité des joueurs, des joueuses. Donc là-dessus, c'était vraiment gratuit. Et donc, je pense pas que ça va être la tête de Turc. Je pense que le public, il va pas se faire siffler, ou alors ça va peut-être durer un match.
Ouais. Alors moi, j'ai pas du tout ton regard, mais du tout aussi ton expérience. Je pense qu'à Roland, moi, je me pose vraiment la question de Roland Garros. Roland Garros, quand on connaît notre public,
bien sûr,
un peu chaud désormais, qui va... Je pense que Sinner va cristalliser toute l'attention.
Ce qui peut se passer, c'est un Sinner Alcaraz en quart ou en demi, qui ne prennent pas Sinner en grippe, mais par contre...
Qu'ils
encouragent Alcaraz, mais un truc.
Mais pas en grippe, oui, il a raison, moi je suis d'accord.
Moi je pense que Sinner va être pris en grippe.
Tu crois que les gens, dans l'esprit des gens, 3 mois, c'est significatif de quelque chose?
On en parlait la semaine dernière avec Lama, dans l'esprit des gens, tant que tu ne feras pas la différence entre les dopés, les vrais dopés et les contaminés, eh bien tu jettes l'opprobre sur les deux. Et donc il va être stigmatisé comme un dopé.
Ça va dépendre de son attitude. Petit tu sais, dopé. Les gens, ils ont besoin d'admirer. Si jamais il joue vraiment bien, qu'il fait des grands matchs, qu'il se dépouille sur le truc, les gens vont oublier, ils vont admirer, ils vont passer à autre chose.
Mais s'il continue à être dans une victimisation,
de dire, ah là là, on n'est pas gentil avec moi, les gens, ils vont le siffler encore plus. C'est lui qui détient la clé.
Si à Roland, il gagne, c'est fini, l'histoire elle est bouclée, il va être applaudi, il va être
Oui, mais c'est pas un garçon qui suscite une grande sympathie pour moi, Sinner.
Oui, ça c'est
pas
vrai.
Le mec que t'as envie d'encourager, c'est une machine, c'est un superbe joueur de tennis.
Il y a pas une bonne synergie.
Mais je pense que tu vois, c'est pas le mec que t'as envie de prendre
faire. Alors Roland, parce que après, t'as peut-être raison, j'y sais, Roland, le public, je sais pas comment, mais
moi il réagit, oui.
Ça va être un épiphénomène, mais ça peut-être durer là. Voilà. Mais la tête du tueur du circuit, après Roland, tu passes sur le gazon chez les Anglais. Alors fini. Là, Wimbledon, c'est fini. Fini. Ça va être tout lisse.
Oui, plus anglais, s'il ne pleut pas.
Voilà, exactement. Ça va être fini. Et après, le circuit va reprendre son cours. Et le temps va faire que tout sera. Ça va s'évaporer avec le temps.
Ok, toi qui as été joueur de tennis, je termine là-dessus, Julien. Est-ce que c'est vrai que quand tu rentres dans un vestiaire, qu'on te regarde un peu différemment, est-ce que ça doit perturber un joueur? Est-ce que tu comprends ce qu'il dit?
Oui, mais je suis pas sûr que ce soit tellement le cas. Moi, j'ai été dans les vestiaires où les mecs, ils ont été vraiment contrôlés positifs. Les Argentins, à un moment donné, les Cagnas et Sheila et compagnie, ils étaient positifs.
Chargés à bloc, quoi.
Et ils étaient.
Ça regardait mal, là?
C'est pas que ça regardait mal, mais on se disait, putain, les mecs.
Calmez-vous,
okay,
quoi.
Ils prennent des suspensions, très bien. Ils payent, ok, 6 mois, 1 an, mais peut-être qu'au moment où on les a joués, moi, en fait, au tennis, au-delà des suspensions, c'est quand tu as été pris, etc. C'est tu rends les points ATP, tu rends l'argent que tu as piqué, en gros. Ouais. Tu vois, Armstrong, il a piqué le Tour de France à des gens. Alors, on lui a enlevé ses Tours de France. Je sais pas si on les a pas réattribués pendant 7 ans. Il n'y a pas de vainqueur. Tu vois, ça, c'est terrible. Et il y a
cette. Donc, il y a de la jalousie. T'es dans le vestiaire, tu vois quelqu'un, t'as un doute, t'es jalousie.
Mais en fait, le circuit est fait d'une. C'est-à-dire qu'après, tu les mets pas. Enfin. Je sais pas comment expliquer, mais tu les stigmatises pas parce que le circuit fait que tu tournes tout le temps.
Ça continue,
dans les vestiaires,
ça n'arrête jamais.
Ouais, c'est un cirque, ouais, c'est un grand cirque. Le circuit. Donc ça passe, voilà.
Ok, et ça passera, c'est ce que tu nous dis.
Ça passera pour Sinner aussi.
Moi, je le sens gros comme une maison, je vous le redis. Je sens qu'à Roland, ça va nous occuper au moins une semaine, voire 10 jours, cette histoire.
T'imagines s'il joue Kyrgios dans les prochains jours.
Et dans les grandes gueules aussi.
Ça pourrait être magnifique.
Dans les grandes gueules aussi. Ouais,
pourquoi pas, j'avais envie de rajouter ça.
D'accord.
Pour te faire de la pub.
Tu sais quoi, je vais annoncer l'horaire pour rebondir sur ce que tu veux dire. 10h45. On se retrouve dans quelques instants, les grandes gueules du sport. Un petit zapping des GG avec des informations à vous donner. Ah, j'ai du Corentin Moutet pour reparler de tennis. J'ai du Greg Popovich ou j'ai du Dazone. Voilà. Allez, à tout de suite. Vous me dites ça vous intéresse ou non. C'est le on s'en fout, on s'en fout pas.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h46 de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission jusqu'à midi. À partir de 11h, on ouvre le dossier Alcaraz, mais pas que Alcaraz. On va évidemment l'élargir sur ses doutes, en tout cas autour de sa volonté de devenir le meilleur joueur de l'histoire. Un champion peut-il renoncer à écrire l'histoire? Vous n'êtes pas d'accord, les GG. Mais tout de suite, on s'en fout pas.
RMC,
le zapping des grandes gueules du sport.
L'actualité de la semaine de ces dernières heures, à vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. Mais GG, Denis Charvet, Fred Le Canut, Julien Beneteau, Christophe Cessieux. Allez, la première information à vous donner, c'est Greg Popovich qui s'arrête. On l'a appris hier soir, ça y est, il ne sera plus l'entraîneur des San Antonio Spurs. On s'en fout pas. Christophe Cessieux.
Je m'en fous pas, mais je vais écouter parce que j'ai.
Tu laisses. J'ai l'impression que tu laisses.
Non.
Fred Le Canut.
Ah non, on s'en fout pas.
On s'en fout pas. Julien Beneteau.
On s'en fout pas.
On s'en fout pas. Denis Charvet, entraîneur légendaire des Spurs. Greg Popovich ne sera donc plus l'entraîneur de la franchise texane à 76 ans et après presque 30 ans sur le banc de San Antonio, eh bien, il a décidé de quitter ses fonctions. Je rappelle qu'il a été victime d'un AVC en novembre dernier, qu'il n'a plus été aperçu sur le banc de San Antonio depuis. Donc, c'est une suite logique, évidemment, mais ça fait tout de même quelque chose pour un entraîneur qui a tant gagné, notamment avec Tony Parker et qui compte 5 titres NBA. Qu'est-ce que vous voulez dire sur Greg Popovich? On en reparlera demain avec Fred Weiss, hein. Évidemment, les copains, on fera un débat. Fred Le Canut.
Moi, j'ai pas la capacité d'avoir le recul sur la NBA pure parce que c'est pas un univers que je maîtrise suffisamment. Par contre, c'est Tony Parker. La relation de Tony Parker avec lui, la relation est ce qui lui a permis à Tony Parker d'être aujourd'hui, enfin, d'avoir été dans pour l'équipe de France aussi. Et surtout, c'était pas si évident que ça. Donc Popovic, il a vraiment porté, il a vraiment insufflé. Et puis sur un management, et c'était peut-être sa limite aussi. C'est peut-être pour ça qu'il aurait peut-être pas pu être un entraîneur national, ou voilà, c'est une dimension très paternaliste. Et c'est cette protection-là qui est très intéressante avec Popovic. C'est la capacité d'avoir, entre guillemets, non pas créé, mais participé à la création de Parker. Et puis oui, ce côté protecteur, hyper protecteur, qui, moi, j'aurais bien aimé avoir eu, tu vois, un entraîneur comme ça.
On a tous envie d'avoir Popovic comme entraîneur, d'ailleurs.
Un entraîneur entraînant.
Victor Wembanyama, qui a réagi, mais tout le milieu du basket en NBA, tout le monde réagit, puisque tout le monde aime Greg Popovic. Coach, je ne pense pas pouvoir vous remercier suffisamment. Merci pour tout ce que vous avez fait pour le basket, pour l'impact que vous avez eu sur le jeu et sur la ville de San Antonio. Merci pour votre personnalité, votre compétitivité, votre dévouement. Ce fut un honneur absolu.
Oui, au-delà de la qualité d'entraîneur et de ses titres NBA, Popovic, je pense que c'était un grand éducateur. Et dans ce monde ultra professionnalisé de la NBA, géré à coups de centaines de millions de dollars, il est capable de faire grandir et progresser des jeunes. Ça a été l'un des premiers à prendre comme assistant des étrangers, à prendre comme assistant une femme. Ses prises de parole publiques, politiques, courageuses, humanistes. Moi, si j'avais un fils qui joue au basket, en fait, j'aurais aimé qu'il soit éduqué et entraîné par Greg Popovic. Donc,
ce qu'a dit Fred, moi, j'aurais aimé, j'aurais adoré d'être entraîné par quelqu'un comme lui.
Au-delà de la qualité pure du basket et de faire gagner son équipe.
Il fait l'unanimité. En plus, c'est vrai que on sait ses soucis de santé. Ouais, donc, ouais, évidemment, on est très attaché à ce coach parce que c'est de la NBA, mais on a l'impression qu'il nous appartient un peu, nous, Français, avec Victor Wembanyama, avec Tony Parker. C'est ça qui est étonnant. Moi, pendant la pub, là, on parlait de Phil Jackson, qui pour moi restera le meilleur entraîneur de tous les temps, parce que Phil Jackson, il a 11 titres NBA. Il a été l'entraîneur du meilleur joueur de tous les temps, Michael Jordan. Ensuite, il est parti aux Lakers. Il a gagné 11 titres. C'est phénoménal. Mais Phil Jackson, on n'a pas cette filiation pour nous. C'est-à-dire que c'est une icône, mais Greg Popovic.
C'est le palmarès, alors que
l'autre. Greg Popovic, il est un peu français. En plus, il adore la France, il a une maison ici.
Et puis, il respire un peu l'amour. Quand tu vois les joueurs, ce qu'ils disent aujourd'hui, ça respire l'amour. C'est un homme qui a aimé avoir ses athlètes, qui a aimé avoir ses basketteurs, et qui a partagé beaucoup de choses et qui les a fait grandir.
Une grande fidélité sur tout ça.
Il me fait penser, en France, on pourrait dire Sir Alex Ferguson pour sa longévité, mais moi, en foot européen, il me fait penser à Carlo Ancelotti.
Moi, un peu, le papa.
Cette proximité avec
le père,
les joueurs.
Le père, un petit peu, le
père classe.
Ouais, le père classe. Et Christos, dans 2 ans, il va rejoindre le record de Popovic. 32 ans d'antenne.
Oui. N'oublie pas que tu es beaucoup plus âgé que moi.
32 ans d'antenne.
Tu sais même plus dire les noms à ton âge. Donc.
Popovic. Comme ça, il sera là. Popovic, je te dis. D'Adrien.
Quoi tu dis?
Allez, deuxième information dans le setting des GG à vous donner. C'est DAZN qui ne sera plus le diffuseur de la Ligue 1 la saison prochaine. On s'en fout pas. Christophe, c'est sûr.
Je m'en fous.
Ok.
Moi, je m'en fous pas, mais je comprends rien.
Okay. Je m'en fous pas, moi.
Ah.
Je m'en fous pas.
Tu ne t'en fous pas. Alors, c'est déjà terminé pour DAZN. On en a suffisamment parlé cette saison, mais là, c'est important de le préciser. Alors, c'était dans les tuyaux depuis plusieurs jours. La fin de la collaboration entre la plateforme britannique et le principal diffuseur de la Ligue 1 et la Ligue de football professionnel a donc été actée hier par le conseil d'administration de l'instance. DAZN ira jusqu'au bout de la saison, va verser les 140 millions d'euros qu'il doit encore au foot français. Il abandonne la procédure judiciaire lancée devant le tribunal de commerce de Paris en début d'année pour se plaindre, on en avait parlé longuement, des conditions d'exploitation liées au piratage, au manque de coopération de certains clubs. Selon nos informations, la Ligue a accepté une indemnité de sortie inférieure à la proposition de médiation. C'est aux environs de 120 000, 140 millions d'euros. On parle de 100 millions d'euros, voilà, pour se quitter à l'amiable. Vous le savez, Nicolas Taverneau, qui fait partie de cette maison, nouveau président de LFP Média, a précisé qu'il allait maintenant pouvoir échanger avec plusieurs médias, dont Canal+,
et dont DAZN aussi.
Diffuseur historique du foot, DAZN. Évidemment, la LFP se donne 5 semaines maintenant pour négocier et acter une décision finale. On pense forcément à la création de la chaîne de la Ligue. Julien.
Non, je m'en fous pas parce que ça peut permettre à Canal+ de revenir dans le jeu. D'une manière ou d'une autre, certainement en tant que moyen de diffusion, plutôt que ayant droit, on va dire, ça va permettre de repartir de nouveau sur une feuille blanche. Et je sais pas pourquoi, mais je fais plus confiance à Nicolas de Taverneau qu'à Vincent Labrune pour trouver une solution qui ramène les amoureux du football vers la Ligue 1.
Bah déjà, il vient d'arriver, voilà. On sent que tout bouge.
Et Canal, c'est quand même incroyable. Exactement, et Canal est prêt à la discussion. En revanche, il y a quelque chose, j'ai peur qu'ils ne récupèrent pas un truc, s'ils font vraiment leur chaîne, la LFP, et s'ils ne s'appuient pas sur un diffuseur historique qui peut être Bein ou Canal, c'est les gens qui se sont tournés vers le piratage et les IPTV, etc. Ces abonnés-là, si c'est le même éditorialement la chaîne de la Ligue, si c'est un peu comme du DAZN, je suis pas sûr qu'ils récupèrent une grosse partie de ces abonnés qui sont partis. En revanche, si c'est sur une vraie chaîne entre guillemets de télé qui a un savoir-faire, une habitude,
là, ça peut faire revenir.
Ok, voilà, c'est mon humble avis.
On reparlera évidemment de ce dossier dans les prochaines semaines. Troisième information rapidement à vous donner, c'est parce que je trouve la sortie intéressante, donc je voulais vous la partager. C'est Habib Bey, le coach de Rennes, qui défend Sidney Govou, critiqué pour ses commentaires lors d'Arsenal PSG. On s'en fout, on s'en fout pas.
Je m'en fous pas. J'ai envie d'écouter.
Ok, Fred Le Canu.
On s'en fout pas.
On s'en fout pas. Julien Benneteau.
Moi je m'en fous.
Moi je m'en fous pas. Non.
Ok. Alors il était à sa place il y a encore quelques mois. Évidemment, il est coach de Rennes désormais. Habib Bey a pris la parole hier en conférence de presse pour défendre donc Sidney Govou, qui a été très fortement critiqué sur les réseaux sociaux pour ses commentaires lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal. Sidney Govou qui a d'ailleurs répondu très élégamment, très bien d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Il a été donc la cible de nombreux détracteurs qui l'ont jugé beaucoup trop pro-parisien. Habib Bey hier en conférence de presse.
Ce que les gens oublient, c'est que lorsqu'on fait ce métier-là, il doit y avoir de la passion. Et la passion amène à la démesure. Et la démesure amène, par moments, au favoritisme. Lorsque vous commentez une équipe française en Ligue des Champions, c'est pas du tout la même chose que lorsque vous commentez deux clubs et que vous êtes en train de commenter la Ligue 1. C'est-à-dire qu'il y a forcément un parti pris. Je dis à tous ceux qui critiquent les prises de position des consultants ou des journalistes de sortir de leur fauteuil et d'aller faire la même chose et de se rendre compte que lorsque vous êtes dans un stade entouré de 60 000 personnes et que vous voyez ce type de spectacle, qu'il y a des émotions qui sont ressenties que devant de votre télé, vous ne percevez pas. Et donc l'enthousiasme qu'a montré Sidney est un magnifique enthousiasme parce que c'est un amoureux du football et du jeu. Lorsque vous n'avez pas de passion, vous n'existez pas dans ce métier-là.
On n'a pas envie de changer une virgule à ce que vient de dire Habib Bey, non ?
Non, mais c'est juste, bien sûr.
Génial,
non,
mais c'est génial ce qu'il a
dit. Vous qui avez tous commenté, là, juste une petite réaction, là, rapidement.
Mais en rugby, c'est différent. Moi, j'ai commenté La Rochelle, par exemple, il y a deux ans à La Viva. J'ai commenté, j'étais comme un dingue. J'étais un dingue, alors que je suis pas du tout, tu vois.
Rochelet.
Rochelet, ben oui. Du tout, dans l'âme.
Tu t'es pris au jeu.
Mais...
Et puis tu fais.
Avec Wilfried Templier, on était avec les supporters Rochelet.
C'est du chauvinisme, et le but, c'est de plaire aussi à tous ceux qui vous regardent. Enfin, c'est important. Oui,
mais la ça s'appelle la transmission.
Transmission d'émotion.
Govou a été critiqué parce qu'il a longtemps porté le maillot de l'Olympique Lyonnais. Donc les supporters lyonnais ne supportent pas que Govou soit aujourd'hui s'enthousiasme pour le Paris Saint-Germain. Mais c'est son job, c'est son boulot de s'enthousiasmer, de dire qu'il voit des choses magnifiques sur un terrain de football. C'est pas un supporter, Sidney Govou aujourd'hui, c'est un consultant et un consultant ou un commentateur doit s'enthousiasmer, doit vibrer. Pour
après, je comprends très bien Eric Dimeco quand il voulait pas commenter le PSG. Voilà, il y a quand même.
Mais ça, c'est son droit de refuser.
C'est son droit de refuser. Ouais, on peut accepter le fait que bon, ils se sentent mal par rapport à.
C'est la liberté. Ça s'appelle la liberté d'expression.
Non, il voulait pas les commenter. Il s'est refusé à les commenter.
Si, il les a commentés. Il a refusé de commenter la finale du
le top.
Il les a commentés pendant un moment quand même.
Pendant au moins une saison.
Et il faisait très bien son boulot.
Oui, mais ça a été très compliqué. Il l'a très mal vécu parce qu'il recevait des menaces.
Parce que quand il rentrait à Marseille, il se faisait assassiner par ses copains.
Ok, les copains. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. Carlos Alcaraz. Un champion peut-il renoncer à écrire l'histoire ? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.